Chapitre 2. Deux amis de pension. Rosette, Nita, ce furent deux jolis petits cris de joie qui se croisèrent à l'angle des rues Cassette et du vieux Colombier. La voiture de la jeune princesse d'Epstein s'arrêta court sur un ordre donné avec pétulance et Nita, rouge de plaisir, se pencha à la portière disant « Monte vite ou je vais descendre !» Mademoiselle Rose de Malvois était à pied, conduite par une femme de chambre qui portait un livre de prière. Nita ouvrit elle-même la portière avant que le valet de pied eût quitté son siège. La dame de compagnie qui l'escortait s'écria, scandalisée, « Oh, princesse! Oh, princesse !» Mais comme Rose hésitait à monter, la princesse Nita ne fit ni une ni deux. Elle sauta sur le pavé et se jeta dans les bras de son amie. « Hein, méchante » dit-elle, les larmes aux yeux. « Oh, méchante! Y a-t-il longtemps qu'on ne t'a vue ?» Rose de Malvois, émue aussi, lui rendit son baiser et glissa un rapide regard à l'intérieur de la calèche. « Ah ! » fit-elle, tandis que son beau front s'éclairait. « Madame la comtesse n'est pas là ?»« Non, » répliqua Nita, « nous serons seuls avec la bonne Favier, et j'ai tant de choses à te dire, si tu savais !» La dame de compagnie, personne considérable, amplement ouatée et fourrée, descendit à son tour avec l'aide du valet de pied. Loin de moi la prétention d'apprendre à mes lecteurs que Paris n'en demande pas tant pour ameuter 4 ou 5 douzaines de ces badauds sur le trottoir. Les badauds s'ameutèrent et regardèrent comme s'ils n'eussent jamais rien vu de si surprenant en leur vie. « Princesse, fit la dame de compagnie, qui commençait toujours et achevait rarement, je ne sais en vérité s'il est convenable. Ma chère Favier, l'interrompit Nita, pourquoi êtes-vous descendue? Vous vous êtes donné une peine inutile. Mademoiselle de Malvois est ma meilleure amie, et mon tuteur sera très content de la voir. Remontez, s'il vous plaît. » Rose de Malvois hésitait encore. « Does she speak English ?» demanda-t-elle tout à coup à voix basse en désignant la dame de compagnie d'une rapide œillade. « Not at all, even a single word !» répondit Nita en riant. « Viens, le comte va nous rejoindre rue des Mathurins-Saint-Jacques et nous te remettrons chez toi en revenant. » Rose se tourna vers la femme de chambre et lui dit « Rentrez à la maison, Julie, et prévenez mon frère que je suis avec la princesse d'Epstein, qui n'est pas accompagnée par madame la comtesse. »« Et mille amitiés de ma part pour mon cher notaire !» ajouta Nita gaiement. Nita fit asseoir Rose près d'elle, et la grosse dame de compagnie prit place sur le devant, raide, silencieuse et grave. Le magnifique attelage, impatient et battant du pied sur place, reprit sa course vers Saint-Sulpice. Les badauds allèrent à leurs affaires. Soit dit sans manquer de respect, ou respect que nous devons à mademoiselle Nita de Clare, ou plutôt à madame la princesse d'Epstein, car elle était damée par son titre d'altesse gros comme le bras, Rose et elle formaient bien la plus délicieuse paire de jolies filles qu'on puisse voir. Mademoiselle de Malvois avait 20 ans. Elle était brune, avec de grands yeux d'un bleu sombre, un peu trop pâle de teint et aussi un peu trop élancée de taille, mais l'harmonie charmante de ses traits en rachetait la pâleur, et l'on ne pouvait qu'admirer la grâce enchantée de cette frêle taille. Rose possédait au degré suprême cette qualité peu définie qui s'appelle la distinction. Comme chaque couche sociale se fait une idée particulière de la distinction, nous dirons que celle de Rose était la bonne. Mais Nita avait mieux que cela en vérité. Quoi qu'on puisse croire, la distinction est une qualité subalterne, et le mot lui-même l'indique énergiquement, désignant, comme il le fait, ce don vague qui marque un visage au milieu de la foule. Entendîtes-vous jamais dire qu'une reine est distinguée? Certes, ce serait un non-sens. Nita n'était pas, ne pouvait pas être de la foule. Bien entendu, nous faisons abstraction ici de sa naissance, de sa fortune. Nous la débarrassons de cette guirlande de titres qui se nouait pompeusement autour de son nom. Nous la prenons telle que Dieu l'avait créée et telle que son éducation l'avait faite. Nita était belle admirablement, d'une beauté franche, riante et hardie. quelques nuages avaient pu passer sur la joyeuse splendeur de cette jeunesse, quelques deuils, et sa sombre toilette, le disait encore, avait pu éteindre pour un instant le noble feu de ce regard, mais la peine ne pouvait courber longtemps ce front véritablement royal. Elle devait se redresser dans sa force et dans son bonheur, elle devait régner partout où la femme gagne les batailles de l'amour et de la vie. Nous la vîmes enfant, autrefois, dans le cloître glacé, où la mère Françoise d'Assise expiait les gloires du passé vaincu. Elle était alors étrange plutôt que belle, avec ses yeux trop grands qui envahissaient la maigreur de ses traits. L'âge avait changé tout cela. L'heure de la floraison éclatait, magnifique et presque imprévue. Et chaque jour apportait en elle un charme, un parfum, un épanouissement. Elle éblouissait ceux qui l'aimaient et ceux qui la détestaient. Elle avait une prodigue chevelure d'un blond obscur et tout plein de mystérieux reflets que la lumière dorait comme une auréole. Ses sourcils, plus foncés et dessinés nettement, selon la courbe aquiline, donnaient de l'autorité à ses grands yeux, rieurs et doux, dont le regard semblait noir quand l'émotion changeait, comme la baguette d'une fée, l'insouciante expression de sa physionomie. Son nez grec ouvrait ses narines délicates et fines comme des feuilles de rose. Sa bouche était d'un enfant quand elle souriait, montrant la gaieté perlée de ses dents. Mais dès qu'elle ne souriait plus, sa bouche, plus fraîche qu'une fleur, rapprochait ses lèvres hautaines et, sans parler, disait « Je veux ». Elle était d'une année plus jeune que Rose. Leur taille se ressemblait, quoiqu'il y eût plus de ressort dans celle de Nita. Et quoique Nita fût plus hautement, plus profondément belle, Rose auprès d'elle gagnait en charme et en beauté. Elle donnait à elles deux je ne sais quel accord juste et plein qui enchantait l'œil et faisait vibrer le cœur. Quand elles furent assises, la princesse Nita prit les mains de Rose dans les siennes. « Moi je t'aime toujours, dit-elle, moi je pense toujours à toi. Tu as été mon bon ange pendant un an, quand on me mit au Sacré-Cœur, après... » Elle n'acheva pas et ses yeux s'emplirent de larmes. On l'avait mise au Sacré-Cœur après la mort du général duc de Clare. « Pauvre bon père, murmura-t-elle, il y a eu vendredi 2 ans, et son deuil n'était pas fini que ma vieille tante, la religieuse de bon secours, est partie aussi. C'était la dernière, celle-là. Je suis seule. » « Je vous ferai observer, princesse, prononça doucement la dame de compagnie, que vous n'êtes pas seule du tout. Madame la comtesse est pour vous une seconde mère. »« C'est bien, Favier, répondit Nita avec un mouvement d'impatience. Quand j'attaquerai Madame la comtesse, il sera temps de la défendre, ma bonne. » Puis elle ajouta en se rapprochant de sa compagne, « Pourquoi m'as-tu abandonnée, Rosette? Je t'ai bien désirée, va. » parce que, répondit mademoiselle de Malvois, après avoir hésité et en anglais, mon frère ne veut pas que j'aille à l'hôtel de Clare. La dame de compagnie rougit. Ses yeux placides eurent une étincelle. Nita tourna vers elle un regard tout brillant de bonté et lui dit, « Je n'ai pas souvent occasion de repasser mes leçons d'anglais. Permettez-vous, ma bonne ?»« Madame la comtesse et le vicomte Hannibal parlent anglais tous les deux, » répliqua la dame de compagnie. « En vérité, ce ne sont pas les occasions qui manquent à madame la princesse pour repasser ses leçons. » Elle croisa son boa sous les brides de son chapeau et prit une attitude résignée. Rose toucha légèrement le coude de son amie. Elles échangèrent une rapide œillade qui contenait beaucoup de paroles, questions et réponses. Le regard de mademoiselle de Malvois voulait dire « Tout à l'heure je t'ai demandé si elle comprenait l'anglais, tu m'as répondu « Non, pas du tout, es-tu bien sûr de ne point te tromper ?» Le coup d'œil de Nita confirmait pleinement sa première assertion et répétait « Not at all ». Elle reprit vivement, et non sans une petite pointe de colère, toujours en anglais, « M'est-il permis de demander pourquoi monsieur mon notaire ne veut pas que tu viennes à l'hôtel de Clare ?» Rose répondit, « Il a connu madame la comtesse autrefois dans sa jeunesse. »« Et il t'a dit, commença Nita, que t'a-t-il dit ?»« Rien, l'interrompit froidement Rose, il ne veut pas, voilà tout, et il est le maître. » Il y eut un silence. La dame de compagnie avait fermé les yeux. Rose mit ses lèvres tout contre l'oreille de Nita et murmura, « Écoute, mon frère aurait besoin de te voir sans témoin. Ne me réponds pas et parlons d'autre chose. Tu feras ce que tu voudras, moi j'ai fait ce que je devais. » Les yeux de la bonne Favier se rouvrirent. Rose ajouta en français, négligemment, « Je te croyais à Rome, Nita ?»« Nous comptions y passer tout l'hiver, » répondit la princesse, qui avait peine à cacher son trouble. « Une dépêche de Paris est venue et nous avons plié bagages du jour au lendemain. » Favier toussa et dit sèchement, « La dépêche avait trait aux intérêts de madame la princesse. » Elle fit le signe de la croix parce qu'on les deux jeunes filles l'imitèrent. « As-tu quelquefois entendu parler de l'atelier Cœur d'acier ?» s'écria tout à coup Nita en jouant la gaieté. « Non, » répliqua Rose pensive. « Qu'est-ce que c'est que l'atelier Cœur d'acier ?»« C'est un mystère de Paris, figure-toi. Et forêt de Gensu, je suppose. » « Non, » répondit mademoiselle de Malvois, « je n'ai jamais lu de... »« Eh bien, tu n'es pas curieuse. Ma bonne Favier ne voulait pas que je les lise, mais la comtesse a dit, « Pourquoi non? Ça ne peut faire ni bien ni mal. »« Madame la princesse est une enfant gâtée, » prononça lentement Favier en regardant Rose. « Madame la comtesse fait tout ce que madame la princesse veut. » Rose sourit d'un air de doute et dit tout bas en anglais, « Es-tu heureuse ?» Nita éclata de rire. « Ma chérie, répondit-elle, tu ne lis pas de romans, c'est possible, mais tu en penses. Voyons, j'ai 19 ans et je m'appelle la princesse d'Epstein. Si je criais au secours avec le contralto que j'ai, on m'entendrait des antipodes. Crois-tu encore au tuteur féroce, toi, ma pauvre Rosette ?»« Es-tu heureuse ?» répéta mademoiselle de Malvois. « Mais oui, parfaitement heureuse en vérité. » Rose dit avec simplicité, « Tant mieux, j'avais peur que tu ne fusses pas heureuse. » Nita n'aurait point su définir l'émotion qui la gagnait. Elle baissa la voix à son tour pour demander, toujours en anglais, « Sais-tu pourquoi monsieur de Malvois a besoin de me voir ?»« Nous parlons bien souvent de toi, » repartit Rose, « mais il y a des choses que mon frère ne dit à personne. » Tu es devenue bien sérieuse depuis le temps, pensa tout haut Nita. C'est vrai, prononça par deux fois mademoiselle de Malvois. Mon frère pâlit et souffre. Il me semble que je ne sais plus rire. Le radieux visage de Nita s'assombrit. Sois franche avec moi, murmura-t-elle. Il y a quelque chose. Elle vit une larme sous les paupières baissées de Rose et la pressa vivement contre son cœur. Princesse, commença la dame de compagnie, qui semblait à la torture, les convenances. Oh, ne me grondez pas, ma bonne, l'interrompit Nita, je n'ai jamais eu qu'une amie. Mais madame la comtesse n'est-elle pas votre meilleure amie, princesse? Voulut protester Favier. Certes, certes, mais ce n'est pas la même chose. Et sans s'excuser davantage, elle se tourna de nouveau vers Rose pour lui dire, en anglais toujours, « Est-ce à cause de ton frère que tu pleures ?» Mademoiselle de Malvois secoua la tête sans répondre. « L'as-tu jamais revu ?» demanda la princesse, dont l'accent changea brusquement. Ceci ne se rapportait point au frère, car Rose tressaillit sans relever les yeux. « Tu l'aimes ?» prononça Nita en baissant la voix. « Ne me mens pas. » « Je ne l'ai jamais revu qu'une fois, » dit mademoiselle de Malvois, d'un ton lent et qui voulait être froid. « Je n'aime personne, mon frère est tout pour moi, ici-bas. » Et si elle eût regardé la princesse en ce moment, elle aurait vu ses yeux briller et une nuance plus rose monter à ses joues. « Moi, je l'ai revu, » dit Nita, « au bois, plusieurs fois, monté sur un beau cheval, et seul, toujours seul, ne saluant personne. Il semblerait qu'il est inconnu au monde entier, car personne n'aurait pu me dire son nom, et pourtant je l'ai bien souvent demandé. » « T'a-t-il reconnu ?» interrogea Rose. « Je ne sais, » répliqua la princesse. « En vérité, je ne sais. » Sa voix trembla en prononçant ces mots. Les paupières de Rose se relevèrent comme malgré elle. Leurs regards se croisèrent. Le rouge vint jusqu'au front de Nita, tandis que Rose pâlissait. Cette dernière demanda en français, et sans réussir à cacher l'effort pénible qu'elle faisait, « Pourquoi me parlais-tu de cet atelier cœur d'acier ? Ah, s'écria Nita, saisissant la balle au bond et heureuse d'étendre son bavardage comme un voile protecteur sur son irrésistible émotion. J'étais sûr que tu voulais savoir. C'est extrêmement curieux, à ce qu'il paraît. Un vrai campement de sauvages au milieu de Paris. Des choses de l'autre monde qu'on ne croirait pas si les voyageurs les rapportaient de la Chine. Le Louvre de la foi, enfin, et des mœurs. Mais ces messieurs disent que les Iroquois ne sont rien auprès de nos saltimbanques. Et Cœur d'Acier est le peintre ordinaire de Bilboquet. Il a une réputation, une gloire. On l'a découvert tout récemment dans un quartier qui est à 100 pieds sous terre, et les vaudevillistes vont le mettre au théâtre. Mais tout cela n'est rien, il y a quelque chose de bien plus intéressant. Ces Hurons sont des anges, au fond, quoi qu'il n'en ait pas l'air. Ils ont recueilli autrefois, par une terrible nuit d'hiver, un héros de roman, beau comme les amours, qui gisait dans la rue, mourant de froid, de faim. Attends donc, non, il était blessé plutôt. Ils l'ont soigné, ils l'ont guéri, ils ont fait de lui leur fils, leur maître, leur roi. Ils ont meublé pour lui un petit palais auprès de leur taudis. C'est maintenant un jeune homme élégant, distingué, montant à cheval, allant dans le monde. Rose sourit. Et c'est pour visiter de pareilles curiosités que la princesse Nita d'Epstein s'est mise en campagne de si bonne heure, dit-elle. Tu m'écoutais donc, fit Nita d'un air moqueur. Vrai, je te croyais dans le pays des rêves, et c'était pour ma bonne Favier que je parlais. Eh bien non, mademoiselle, vous êtes très loin du compte. Il s'agit d'affaires. Nous sommes sortis pour affaires. Ne vous ai-je pas dit que j'allais rejoindre le comte, mon tuteur? C'est toute une histoire. Le gouvernement va nous acheter l'hôtel de Claire, un peu malgré nous. Pour faire leur emploi de mes fonds, mon tuteur a jeté les yeux sur le vaste terrain qui accompagne l'atelier Cœur d'Acier. Dans un quartier situé à 100 pieds sous terre, l'interrompit Rose avec une sorte d'amertume. Ah, bravo, tu m'écoutais décidément, s'écria la princesse. Pendant que la dame de compagnie, scandalisée, se pinçait les lèvres. Dans un quartier qui va être mis en valeur par d'admirables percées. Les plans sont faits, nous les avons eus de l'hôtel de ville, nous aurons façade sur 2 rues et 1 boulevard. Le nouvel hôtel de Claire couvrira les dépenses de sa construction par les maisons de rapport qui vont l'entourer. Je comptais bien consulter ton frère, quoique le comte, mon tuteur, soit entouré de personnes tout à fait compétentes. « Va, Rosette, ma pauvre Rosette, » s'interrompit-elle, traduisant tout à coup sa pensée en anglais. « Peut-être, sans y songer, je voudrais bien m'intéresser à ces choses-là. Enfin, je suis seule, horriblement seule. » Comme mademoiselle de Malevoie ouvrait la bouche pour répondre, la voiture, engagée dans une rue étroite, l'arrêta. La portière de gauche touchait presque le vieux mur de l'hôtel de Cluny. La portière de droite s'ouvrit et un homme d'apparence respectable présenta sa tête nue, coiffée de cheveux blonds grisonnants. Cet homme, nous le connaissons, et cependant il nous faudra quelques lignes pour le présenter au lecteur, car le changement produit en lui par ces 10 années tenait presque du miracle. Nous dirons tout de suite que c'était Joulou, notre Joulou, la brute de Marguerite Sadoulas. Nous ajouterons que rien ne restait, rien absolument, du sauvage et hardi cuisinier de la belle pécheresse, rien de l'étudiant de 10e année, rien du féroce lutteur qui, debout sur une table de marbre, avait soutenu contre un officier de marine ce combat historique et terriblement fou, illustre dans le légendaire des écoles. Rien. C'était monsieur le comte de Bréhut de Clare, un homme modéré, tiède, riche, grandi dans l'opinion par la position princière de sa pupille et en passe de devenir pair de France. C'était en outre le mari de madame la comtesse du Bréhut de Clare, ou mieux de Clare tout court. Une créature d'élite, celle-là, une femme supérieurement belle et très forte, qui avait exhumé d'archives plus profondes que des puits ce droit à porter le nom de Claire, et conquis ainsi, pour son mari, dans un conseil présidé judiciairement, la tutelle de la princesse d'Epstein, malgré l'opposition de feu la mère Françoise d'Assise, qui était morte en gardant certains préjugés entêtés. Le principal de ces préjugés était une défiance incurable à l'endroit de madame la comtesse. Au physique, monsieur le comte du Bréhut de Clair était plus vieux que son âge et paraissait au moins 45 ans. Son athlétique constitution avait considérablement fléchi. Toutefois, ses épaules larges et hautes auraient fatigué l'habit noir qu'il portait aujourd'hui, comme tout le monde. Sa taille était un peu courbée, il avait l'air souffrant et surtout triste. Mais la transformation était principalement dans ses traits et dans l'expression de sa physionomie. Sa figure restait large, son teint terne. Seulement, la maigreur, sculptant à nouveau les plans de cette face fruste qui jadis semblait une grossière ébauche, avait dégagé des lignes nettes et presque nobles. Les yeux agrandis, pensés, le front dégarni, médité. À l'aspect d'une étrangère dans la calèche, le premier mouvement de monsieur le comte fut une sorte de tressaillement craintif. Il avait la vue très basse et demanda « Qui donc avez-vous là, princesse ?» Nita lui tendit la main familièrement au lieu de répondre et madame Favier murmura d'un ton de rancune « La princesse n'est plus une enfant, elle fait ce qu'elle veut, Dieu merci !» Quoi qu'on vous dise ou qu'on vous fasse entendre, madame, l'interrompit le comte avec une sévérité froide, vous êtes aux ordres de ma pupille, ne l'oubliez jamais. Il serra la main de Nita dans ses deux mains. Son regard exprimait un respect tendre et bon. En descendant, Nita lui donna son front à baiser et prononça tout bas le nom de son ami. Il y eut de la surprise dans les yeux demi-baissés de Rose, pendant que le comte la saluait avec une bienveillante courtoisie. La dame de compagnie pinça ses grosses lèvres et se prépara à descendre. « Restez, lui dit le comte du Bréhut, vous attendrez ici. » Il ajouta, en offrant sa main à Rose, « Soyez la bienvenue, mademoiselle de Malvois. Je ne suis pas de ceux qui accusent votre frère. » « Qui donc accuse mon frère, monsieur ?» demanda Rose, qui lui retira sa main d'un geste plein de hauteur. « Ce que ton frère accuse peut-être, » répondit Nita, dont les grands yeux rêvaient. Et monsieur le comte de Bréhut murmura, « Entre votre frère et cela, mademoiselle, je crains que la lutte ne soit pas égale. » Ils étaient à la porte même de l'atelier Cœur d'Acier, sous le fameux tableau que la bise balançait. La calèche attendait au bout de la rue. Le comte se découvrit et fit passer les deux jeunes filles. Avant d'entrer, il leva la tête pour jeter un regard à la cinquième fenêtre du joli appartement du bon Jaffré. À cette fenêtre, deux têtes curieuses étaient penchées. Monsieur le comte agita son chapeau en s'inclinant gravement.